9, 8, 7, 6, 5.
Very happy to see you.
Nous sommes sur France Culture pour parler de dernières nouvelles de l'univers.
Okay, okay, go, go, came the trial.
Dernière nouvelle de l'univers, André Brahi.
Aujourd'hui, posons-nous la question de la vie dans l'univers. Cette question, elle est millénaire. Depuis les temps les plus anciens, depuis pratiquement la préhistoire, les hommes se demandent s'ils sont les seuls sur Terre. Autrement dit, est-ce que la vie s'est développée uniquement sur la Terre, ou bien est-ce que la vie pullule dans l'univers, en d'autres endroits non encore découverts? Alors pour cela, aujourd'hui nous sommes au seuil d'une découverte. Alors pour l'auditeur pressé, je peux déjà donner la réponse. Un scientifique à qui on pose la question « Y a-t-il de la vie ailleurs que sur Terre ?» ne peut répondre qu'une chose « Je ne sais pas ». Et puisque nous ne savons pas, nous cherchons. Et en cherchant, je peux vous dire que depuis quelques années, les nouvelles succèdent aux nouvelles. Les choses se bousculent et je pense que le paysage va probablement changer très rapidement. Alors, chercher la vie dans l'univers, c'est en gros se poser trois questions. La première, c'est y a-t-il de la vie dans le système solaire ailleurs que sur Terre? La deuxième, c'est y a-t-il de la vie autour d'autres étoiles, bien plus loin que le système solaire? Et enfin, la troisième, s'il y a de la vie, est-ce que cette vie nous ressemble? Et employant un mot qui n'est peut-être pas le meilleur, y a-t-il une vie intelligente? Si tant est que nous sommes intelligents, ce dont je ne suis pas sûr. Et donc, je vous propose de traiter ces trois thèmes. Alors, pourquoi parler d'abord du système solaire? Tout simplement parce que le système solaire, c'est notre banlieue. Nous avons des robots qui se promènent dans toutes les directions, qui sont un petit peu nos yeux et nos oreilles lancés à distance et qui nous racontent ce qui se passe. Alors, cette vie dans le système solaire... Depuis que l'homme écrit, depuis que l'homme pense, on s'est posé des questions. Remontons à la Grèce ancienne, Thalès pensait que les mondes contenant la vie dans l'univers étaient innombrables. Anaximandre, lui, il pensait qu'un monde naissait, développait la vie, mourait et qu'un autre lui succédait. Démocrite, lui, était persuadé que les étoiles étaient des soleils lointains, il avait raison. Il était persuadé que ces étoiles étaient entourées de planètes, il avait probablement raison. Il était aussi persuadé que ces planètes étaient habitées, là nous ne savons pas. C'était, je le rappelle, il y a 2400 ans. Et nous avons une série d'allers-retours, c'est-à-dire qu'un certain nombre de scientifiques ont émis l'idée au cours des siècles que la vie pouvait exister dans le système solaire. Et puis les églises, souvent, étaient réticentes à cette idée, imaginant que nous étions au centre de l'univers, imaginant que l'univers était fait pour l'homme. Et donc, un certain nombre d'allers-retours. Et par exemple, le 17 février 1600, Giordano Bruno, qui avait prétendu que la vie devait pulluler dans l'univers, a été brûlé en place publique à Rome. Ce qui est maintenant resté comme le symbole de l'intolérance religieuse. Bon, Giordano Bruno avait aussi dit que Marie n'était pas vierge, ce qui n'avait pas plu à l'époque. Alors d'autres personnes s'étaient posé le problème. Descartes, par exemple, pensait qu'il y avait un nombre infini de systèmes solaires. Diderot ou Kant se posaient les mêmes questions et répondaient de manière positive. Fontenelle, dans les remarquables ouvrages de vulgarisation qu'il écrivait pour les dames en particulier, a traité du problème de la vie extraterrestre et d'un nombre innombrable, en quelque sorte, de planètes habitées. Des scientifiques comme Kepler, comme Herschel, comme Arago ont imaginé de la vie dans les astres que nous connaissons, planètes ou même dans le Soleil, nous ne connaissions pas à l'époque la nature du Soleil. Et au début du XXe siècle, est née une nouvelle théorie, qu'on appelle d'un mot un petit peu savant la panspermie, c'est-à-dire qu'en gros, la vie sur Terre aurait été ensemencée par un bombardement venu de l'extérieur. Ce qui évidemment sous-tend derrière l'idée que cette vie existerait à l'extérieur. Alors, revenons en fin du XIXe siècle. Flammarion écrit en 1882 un remarquable ouvrage qui a passionné pour l'astronomie plusieurs générations. Et bien Flammarion, dans son livre, il envisage la vie partout. Il parle des sélénites sur la Lune, des vénusiens, des martiens, des jupitériens, des mercuriens, etc. Et les auditeurs de France Culture, des années 1882-85, étaient persuadés que la vie pullulait dans le système solaire. Et puis est venu le mythe des martiens. Vous savez que les astronomes observaient avec leurs télescopes de plus en plus gros la planète Mars. Et le problème, c'est qu'ils observaient à travers l'atmosphère terrestre, que l'atmosphère terrestre, elle est turbulente, qu'il y a des vents, des nuages, enfin, de phénomènes qui fait qu'ils voyaient Mars à travers l'atmosphère. Et en exagérant un petit peu, ils ont intégré l'avant-plan à Mars. Et pour dessiner dans leur, ce qu'ils voyaient avec leurs yeux, les taches sombres et les taches claires, ils mettaient des traits qui séparaient les deux. Et ces traits, rapidement, sont devenus des canaux. Et on a imaginé qu'il y avait des canaux sur Mars. De là à dire qu'ils étaient artificiels, il n'y a quand même pas, franchi par beaucoup de gens. Et à l'intersection de deux canaux, on imaginait qu'il y avait une ville. Et à l'intersection de trois ou quatre canaux, on imaginait qu'il y avait une capitale. Et donc, on fleurit les livres, la littérature, sur la vie martienne, sur les civilisations qui devaient s'y développer. Et vous connaissez la fameuse émission de radio en Angleterre dans les années 1930, où la moitié de l'Angleterre était terrifiée quand Wells a émis l'idée qu'on était envahi par les Martiens. Appelle un reporter sur place qui a décrit ces engins, extraordinaires. Il faisait de la science-fiction, mais il n'avait pas dit aux auditeurs. Et donc finalement, ce mythe des Martiens a perduré pendant longtemps. Et si nous avons exploré avec autant d'énergie la planète Mars dans les années 1970, 80, 90, et ça continue, peut-être que nous le devons en partie à ce mythe. Dans les années 1930, les dictionnaires étaient publiés. Moi, je me souviens, j'étais petit, un peu plus tard que 1930, et je prenais les livres de mes parents, qui étaient des livres qui avaient été imprimés dans les années 1930, des dictionnaires Larousse en particulier, où étaient dessinés des paysages de Vénus, de Mars, des planètes, où on imaginait la vie. Par exemple, Vénus ressemblait assez bien à la Terre, à l'ère secondaire, avec des grandes fougères. C'est tout juste qu'il n'y avait pas des dinosaures cachés derrière ces immenses fougères ou derrière les arbres de Vénus en question. Et donc je rêvais, l'enfant que j'étais dans les années 1950, rêvais de ces paysages de planètes et je me disais, ah, peut-être qu'un jour on les visitera. Ce qu'on a fait. Ce qui fait que si on m'avait demandé en 1890, en 1920, en 1940, y a-t-il de la vie dans le sixième soleil, j'aurais répondu avec assurance, oui, il y en a. Si on m'avait posé la question en 1950, j'aurais dit, c'est pas sûr. Si on m'avait posé la question en 1970, j'aurais dit, non, il n'y en a pas. Il n'y a que sur Terre. Nous avons envoyé des sondes qui ont jeté un premier coup d'œil. Il n'y a pas de vie dans le système solaire. Si on m'avait posé la question en 2000, j'aurais affirmé avec force qu'il n'y a pas de vie dans le système solaire ailleurs que sur Terre. Et si on me pose la question en 2013, ma réponse est plus évasive, elle est « je ne sais pas ». Parce que, en explorant les différentes planètes, en regardant ce qui s'y passe, il y a des endroits que nous trouvons bien étonnants et sur lesquels nous allons retourner pour répondre à cette question. Alors, première affirmation que vous m'en donnez, il n'y a pas de vie macroscopique dans le système solaire. Il n'y a pas de girafes, de dinosaures ou d'éléphants sur les planètes ou leurs satellites dans le système solaire. Ça, bon, nous en sommes certains. Maintenant, regardons d'un peu plus près ce qui se passe sur ces planètes que je vous avais déjà décrites dans une émission précédente. Mercure, il n'y a pas d'atmosphère, on n'en parle pas. Ou il n'y en a pratiquement pas. La planète Vénus, qui a reçu ce nom de la déesse de l'amour parce qu'on la voit au coucher, au lever du soleil, est en fait un enfer. Nous avons vu qu'en fait, à la surface, la température est de 400 degrés, l'atmosphère est de dioxyde de carbone, il y a de l'acide sulfurique et chloridique en suspension, la pression au sol est 100 atmosphères, il n'y a évidemment pas d'eau liquide. Vénus est un enfer. Donc, pas question de trouver une vie sur Vénus. Mais, il y a des corps un petit peu différents. Je pense en particulier à Mars et à Titan, satellite de Saturne. Sur Mars, l'exploration que nous avons faite nous montre que dans le passé, le climat martien était doux et humide. Si vous étiez sur Mars il y a 3,8 milliards d'années, eh bien vous aviez l'eau liquide qui coulait, vous aviez des rivières et leurs affluents, vous aviez un sel de ciel de couleur un petit peu jaunâtre et une température tout à fait agréable. Eh bien, il y a 3,8 milliards d'années, la vie a démarré sur Terre. Et un certain nombre de mes collègues scientifiques pensent que la vie a dû démarrer sur Mars à la même époque. Nous ne savons pas encore, nous l'imaginons. Nous devrons un jour retourner sur Mars avec des géologues qui chercheront des fossiles. Et s'ils trouvent des fossiles, ça sera bien la preuve que la vie avait démarré à cette époque. Le problème, c'est que sur Mars, l'effet de serre a avorté, que l'atmosphère s'est en grande partie évaporée et que la vie sur Mars aujourd'hui n'est pas possible. On ne peut être sur Mars qu'avec un scaphandre, avec un équipement très compliqué. Pas question qu'il y ait une vie qui s'y développe. À moins que dans le sous-sol soient restées des choses. Certains imaginent qu'il y a des lacs souterrains, qu'il y a des mers souterraines. Et qui sait, dans ce sous-sol, on pourrait trouver je ne sais quel virus, bactérie ou organisme monocellulaire. Donc nous devrons aller sur Mars, explorer les sous-sols et voir réellement ce qui s'y passe. Mais nous avons le doute que dans le passé, peut-être la vie a démarré. Et ça, c'est très important, parce que si la vie a démarré sur Mars dans le passé, ça veut dire que ce phénomène est commun. Il n'y a plus lui dans l'univers. Si la vie n'a pas démarré sur Mars dans le passé, alors que les conditions étaient favorables, alors nous devons nous demander s'il faut trouver un ingrédient supplémentaire pour que la vie puisse démarrer. Mais allons un petit peu plus loin. Il est évidemment hors question de parler de la vie sur les planètes géantes, qu'il s'agisse de Jupiter, de Saturne, d'Uranus ou de Neptune. Ce sont des boules de gaz immenses, faites d'hydrogène et d'hélium pour l'essentiel. Encore que certains, qui ne manquent pas d'imagination, ont imaginé des espèces de méduses flottant dans ces atmosphères et montant et descendant comme un ballon dans l'atmosphère. C'est pas forcément très réaliste, mais bon, la science-fiction, comme la poésie, c'est passionnant, il en faut, et c'est comme ça que l'imagination se développe. Mais pensons aux satellites de ces planètes géantes. Pourquoi ces satellites ? Parce qu'il y a un sol solide, comme sur Terre. Et l'un de ces satellites à attirer l'attention, c'est Titan, satellite de Saturne. Sur ce corps, il y a plein d'hydrocarbures, c'est-à-dire des molécules faites de composés de carbone et d'hydrogène. Il y a une chimie très complexe. Et Titan a une atmosphère d'azote, comme la Terre. Titan a une pression à la surface qui est d'1,2 bar, pratiquement comme la Terre. Une différence avec la Terre, c'est que la température est de moins de 100 degrés Celsius. Il fait beaucoup plus froid. Si vous allez là-bas, mettez une petite laine, il fait frisquet. Mais on se dit, les réactions chimiques qui ont conduit au démarrage de la vie sur Terre, que s'est-il passé sur Titan ? Est-ce que ce sont les mêmes à plus faible vitesse ? Que ce sont d'autres réactions ? Et donc, une des priorités de mission spatiale, mission Voyager d'abord, qui assure les satellites, mission Cassini en ce moment, qui tourne autour de Saturne et qui passe régulièrement auprès de Titan, essaie de comprendre la chimie qui se déroule dans l'atmosphère de Titan. Et nous avons en particulier trouvé sur Titan des lacs de méthane alimentés par des rivières de méthane, avec le cycle du méthane, comme il y a sur Terre le cycle de l'eau. Donc c'est un endroit où, là aussi, pour la vie, pour comprendre comment elle a démarré, nous devons comprendre la chimie de Titan. Et donc, si on avait fait cette émission il y a une dizaine d'années, on aurait dit, voilà, il y a Mars et Titan, peut-être l'un dans le passé, l'autre peut-être dans le futur, ou que sais-je, et des choses intéressantes, mais il n'y a rien d'autre. Or, une nouvelle fondamentale et très importante est tombée en 2006, un petit peu après l'arrivée de la sonde Cassini autour de Saturne. En tournant autour de Saturne, cette sonde Cassini a trouvé des geysers sur un petit satellite, Encelade, petit satellite de Saturne, qui ne fait que 500 km, qu'on imaginait comme mort, qui n'est pas mort du tout, qui est très actif. Et on a, avec nos images, on a trouvé donc ces geysers, à un moment donné, on a essayé de comprendre ce qui se passe, on a changé le programme de la sonde pour faire des survols très proches de Titan, et on a compris que là, il y avait une énergie qui était sans arrêt relâchée de l'intérieur du satellite avec des geysers. Alors ces geysers, c'est de l'eau H2O qui part. Cette eau, elle vient d'où ? Elle vient du sous-sol. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol ? Eh bien, on a compris que dans le sous-sol d'Encelade, en particulier en dessous de l'hémisphère sud, il y avait des mers souterraines. Et donc de l'eau. On a appelé ça des océans Perrier, un peu comme l'eau minérale, parce qu'elle bouillonne, fait des bulles. Et donc ce bouillonnement-là, il passe à travers les fissures qu'il y a dans le sol, d'où les geysers qu'on observe. Donc vous avez de l'eau, vous avez de l'énergie. Et on a trouvé aussi avec nos instruments une chimie organique complexe. Eh bien, si vous me demandez quelles sont les conditions nécessaires pour que la vie puisse démarrer, eh bien, je vous répondrai, il faut trois conditions. Il faut de l'eau liquide, il faut de l'énergie et il faut de la chimie organique complexe. Ces trois conditions sont réalisées là-bas. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que dans les mers souterraines, les océans souterrains d'Encelade, vous avez des dauphins, des baleines et des requins qui se promènent. Pas du tout. Je suis en train de vous dire que les conditions pour la vie sont réalisées et on ne sait pas ce qu'il y a. Donc la priorité des missions spatiales de l'Agence spatiale européenne et de l'Agence spatiale américaine des années 2020-2030, c'est de retourner là-bas et de voir ce qui s'y passe. Alors, deux choses. Ou bien on ne trouvera pas la vie. Alors ça, c'est passionnant. Parce que ça veut dire qu'il y a un endroit où toutes les conditions sont réunies, il y a tout ce qu'il faut, la vie n'a pas démarré. Donc dans notre tentative de compréhension des raisons pour lesquelles on passe du monde inanimé de la roche au monde animé de la biologie, eh bien il nous manque un maillon. Et donc ça veut dire que ça relance la recherche. Ou bien on trouve effectivement de la vie. Et alors là, ça veut dire qu'à chaque endroit où les conditions sont favorables, ça démarre. Et cet endroit étonnant, tout à fait inattendu, qu'on a eu la chance de trouver, mais j'ai le bonheur d'être dans l'équipe d'imagerie de Cassini qui passe son temps à trouver des merveilles, c'est pour ça qu'il faut continuer à explorer le système solaire, eh bien, on vient de réaliser qu'il n'y a pas que sous Encelade que ça se passe. Europe, satellite de Jupiter. Callisto, satellite de Jupiter. Titan, dont je viens de parler, satellite de Saturne. Triton, satellite de Neptune. Eux aussi possèdent des océans souterrains. Et eux aussi ont le phénomène du chimie organique, d'eau liquide, et d'énergie. Vous voyez, c'est un peu comme sur Terre. Vous êtes dans l'Antarctique, vous allez dans les déserts, vous allez dans les océans, vous allez dans les montagnes, vous allez dans les campagnes. Eh bien, vous voyez des choses qui démarrent, des choses qui, de temps en temps, ne vont pas jusqu'au bout, puis de temps en temps, qui sont, au contraire, florissantes et tout. Eh bien, je crois que dans tout le système solaire, il y a des démarrages un peu à gauche, à droite qui se passent. Certains conduisent à un espèce d'avortement, ça ne continue pas. D'autres, au contraire, se développent, c'est la vie sur Terre. Mais vous voyez bien que pour mieux comprendre la Terre, Il faut regarder l'extérieur. C'est pour ça que la recherche spatiale est si importante. Donc, à la question de la vie dans le système solaire, malgré tous les moyens que nous avons mis, malgré l'exploration que nous avons faite depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, cette question est relancée complètement. Et ce qui est merveilleux, c'est que dans ce 21e siècle, nous aurons la réponse à la fin du siècle, si effectivement d'autres formes de vie sont développées. Regardez quel progrès a été fait. Revenons au début du 20e siècle. C'était l'horrible Première Guerre mondiale, la guerre de 14, où des millions de gens sont morts au fond des tranchées. Revenons au début du 19e siècle. C'était les guerres napoléoniennes, où là aussi, des millions de gens sont morts à la guerre en Europe. Revenons au début du 18e siècle. Des famines épouvantables avaient lieu parce qu'il y a des conditions climatiques extrêmement dures et des millions de gens mouraient de faim. Je ne vais pas comme ça remonter jusqu'à la guerre de 100 ans, jusqu'aux Romains. Et au début du 21e siècle, nous sommes en train de répondre à une question fondamentale. Quelle époque merveilleuse ! Et à nouveau, à bas les homo tristus qui nous prétendent que c'est la crise. Pas du tout. C'est au contraire, ça devrait être une grande confiance. C'est une période merveilleuse que j'aimerais que chacun apprécie à sa juste mesure. Alors, il me semble donc qu'une priorité importante revient à continuer l'exploration. Parce que la réponse à cette question, elle est profonde. La réponse à cette question, c'est, s'il y a de la vie ailleurs, c'est comprendre comment nous sommes apparus. Et donc, avec toutes les dimensions, je dirais, sociologiques, métaphysiques et autres, et on voit très bien que dans les grands problèmes de société, qu'il s'agisse de violence, de chômage, etc., c'est comme ça qu'ils seront résolus, en avançant sur ces questions fondamentales qui, en quelque sorte, fondent notre société. Donc, la vie dans le système solaire, le débat est relancé, et je vous convie aux émissions de France Culture des 21e, 22e et 23e siècles, et vous verrez, c'est un feuilleton continu où il se passe plein de choses, et où là, nous irons beaucoup plus loin que certains philosophes qui, par manque de culture scientifique, répètent quelquefois un peu toujours la même chose, mais j'adore la philosophie, et je ne saurais les critiquer. Mais vous voyez que dans le système solaire, c'est une chose, mais ce système solaire, il n'est pas grand-chose par rapport à l'ensemble des étoiles dans le ciel. Notre galaxie contient actuellement une centaine de milliards d'étoiles. Des galaxies comme la nôtre, nous en connaissons quelques milliers de milliards. Donc, à l'heure où je vous parle, nous connaissons quelques centaines de milliers de milliards d'étoiles, comme le Soleil. Autrement dit, cette quête de vie autour de notre étoile, elle ne fait que commencer. Elle commence d'abord chez nous, bien entendu. Et ceci ressemble finalement bien à l'exploration de la Terre. Il y a quelques dizaines de milliers d'années, on connaissait l'endroit où on se trouvait, on connaissait les voisins, quelques kilomètres à la ronde. Et puis l'homme a commencé à se déplacer sur Terre. Et puis un jour, il y a eu des grandes explorations. On a découvert les continents les uns après les autres. Et on a compris que la Terre était un tout. J'espère que prochainement, nous comprendrons que le système solaire est un tout. Et que ce tout, nous avons besoin de tout cela. Nous en avons besoin pour la matière première, nous en avons besoin pour vivre finalement, pour notre futur. Nous avons vu que le problème de la vie dans le système solaire, ailleurs que sur Terre, n'est pas complètement résolu. La recherche continue. Maintenant, allons plus loin. Y a-t-il de la vie ailleurs que dans le système solaire ? Spontanément, on a envie de dire probablement, puisque nous connaissons, à l'heure où je vous parle, quelques milliers, deux milliards d'étoiles dans les différentes galaxies. Alors, ça serait bien le diable que la vie n'ait démarré qu'autour de notre Soleil. Ça serait avoir un nombril d'une taille démesurée, d'imaginer que nous sommes seuls dans l'univers. Mais après tout, certains collègues biologistes me disent « Oulala, c'est très compliqué de faire la vie. Ça demande une série de phénomènes qui doivent bien s'ajuster. C'est pas si facile. » Et finalement, au point où nous en sommes, nous n'avons pour l'instant aucune preuve, aucune trace, aucune indication d'une possible forme de vie ailleurs que sur Terre. Donc, nous continuons la recherche. Alors, un domaine de recherche a complètement explosé récemment, depuis les années 1990, c'est que nous sommes en train de trouver des planètes autour des autres étoiles. Alors d'abord, posons-nous la question. Qu'est-ce que c'est que la vie, après tout ? Alors, je ne vais pas ici vous définir la vie, parce que j'en suis totalement incapable. Est-ce que la vie, c'est le fait de se reproduire ? Des cristaux de glace se reproduisent. Personne ne dit que c'est de la vie. Est-ce que la vie, c'est le fait de respirer ? Est-ce que la vie, c'est le fait de manger ? Est-ce que la vie, c'est le fait de faire des déchets ? Probablement un peu tout ça. Mais déjà, nous ne savons pas définir ce que c'est que la vie. Alors, qu'est-ce que nous allons étudier ? Eh bien, nous allons essayer de voir des choses qui ressemblent à ce qu'on connaît sur Terre. Sachant, et là je vais peut-être aller un petit peu trop loin dans la spéculation, que de la même manière que l'exploration des planètes nous a montré que la Terre n'était qu'un cas particulier d'un phénomène très général, peut-être que notre vie n'est qu'un cas particulier d'un phénomène très général dont nous ignorons totalement la nature pour l'instant. Mais enfin, essayons de voir ce qu'est la vie. Alors déjà, un premier point, quand je vous dis qu'on essaie de voir la même chose que ce qui se passe sur Terre, nous venons de découvrir dans les décennies qui précèdent des formes de vie inattendues. Au fond des océans, à 1000 mètres de profondeur, près de sources d'eau chaude, on voit des organismes qu'on appelle des extrémophiles, où il y a de la vie. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, on vous disait, il faut la lumière du soleil. La lumière du soleil ne parvient pas à cet endroit-là. Dans les déserts les plus arides, dans des zones arctiques ou antarctiques, on trouve des formes de vie. Autrement dit, on voit que la vie s'adapte à des conditions bien pires que ce qu'on imaginait dans les décennies qui précèdent. Appelons ça pour l'instant des extrémophiles, mais ça veut dire que si de la vie a pu démarrer sur Terre dans des conditions aussi dures, peut-être qu'elle a pu démarrer aussi ailleurs. Alors, on pourrait aussi imaginer, ça les auteurs de science-fiction ne sont pas manqués de faire cet exercice, des formes de vie complètement différentes des nôtres, c'est-à-dire on se passe sur une planète. Je cite juste deux exemples. L'un des grands scientifiques qui est décédé il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle Fred Hoyle, a écrit un roman de science-fiction dans lequel il imaginait des nuages interstellaires qui seraient intelligents et parleraient entre eux et communiqueraient. Alors bon, ça, nous n'en parlons pas dans l'émission, bien entendu. On pourrait aussi, si on veut rester dans le domaine de la science-fiction, imaginer quelque chose d'encore plus extraordinaire. Vous savez qu'il existe des étoiles qu'on appelle des étoiles à neutrons. C'est-à-dire ces étoiles, elles sont grandes comme la ville de Paris et elles ont trois fois la masse du Soleil. Je rappelle que la masse du Soleil, c'est 1 million de fois celle de la Terre. Eh bien, dans un endroit aussi dense, quand je dis aussi dense, ça veut dire dans une cuillerée à café, c'est-à-dire 1 cm3, eh bien, vous avez quelques milliards de tonnes. Comme je dis, si vous montez dans un avion où les bagages sont payés à la dimension, vous ne payez pas de supplément, mais l'avion ne décolle pas. Et donc, dans un milieu aussi dense, évidemment, on se dit la vie n'est pas possible. Eh bien, qu'est-ce qui tient les objets entre eux ? C'est le champ magnétique. Donc, imaginons des atomes qui sont ionisés, les électrons sont partis. Dans ce champ magnétique extrêmement fort qui existe sur ces étoiles, on pourrait imaginer des atomes qui sont empilés les uns les autres par le champ magnétique. Et un empilement d'atomes, c'est quoi ? C'est une molécule. Et une molécule très compliquée, c'est la base, c'est l'ADN, l'ARN, etc., la base de la vie. Donc on pourrait imaginer des espèces d'êtres vivants qui soient des organismes de taille toute petite, bien entendu, tenus dans une gravité incroyable, qui soient tenus par cela. Alors évidemment, communiquer avec eux serait bien difficile, puisque s'ils voyageaient, ils n'auraient pas besoin de masque à oxygène, mais ils auraient besoin de champs magnétiques puissants, sinon ils seraient dispersés. Donc vous voyez que l'imagination humaine n'a pas de limite. On pourrait imaginer plein de choses. Restons raisonnables et parlons de formes de vie éventuelles, comme nous en connaissons sur Terre. Donc la question qui se pose, c'est, y a-t-il ailleurs des autres Terres ? Autrement dit, des astres qui ont à peu près la taille de la Terre, la masse de la Terre, et qui soient la bonne distance de l'étoile, c'est-à-dire pas trop loin, sinon c'est un monde gelé, et pas trop près, sinon c'est un monde trop chaud, et qui est un véritable enfer. Alors, dans cette quête, je vous l'ai déjà dit, beaucoup de philosophes, beaucoup de scientifiques, dans les siècles passés, depuis l'Antiquité, ont imaginé que la vie devait plus dans l'univers. Les nouvelles se sont accumulées au XXe siècle. Alors d'abord, on peut constater qu'entre la fin du XIXe siècle et les années 1990, il a été annoncé plusieurs dizaines de fois la découverte d'une planète. À chaque fois, c'était une fausse nouvelle. Je me souviens d'être intervenu dans différentes émissions de radio et de télévision dans les années 1970, 1980, où un grand fracas de coups de trompette était annoncé à la découverte d'une planète qui, un peu plus tard, s'avérait comme étant fausse. Mais c'est toujours comme ça qu'on procède. On commence par faire quelques erreurs et ensuite, on trouve les bonnes choses. Et là, il y a eu deux découvertes fondamentales qui ont été faites, l'une en 1992 et l'autre en 1995. En 1992, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve un cortège de trois planètes autour d'un objet astrophysique qu'on appelle un pulsar. Qu'est-ce que c'est qu'un pulsar ? C'est le résidu d'une étoile qui est morte, qui s'est effondrée sur elle-même, une étoile à neutrons, dont je vous parlais à l'instant, et cette petite étoile tourne sur elle-même extrêmement rapidement. Pourquoi pulsar, c'est la contraction du mot anglais pulsating star. C'est, en gros, cette étoile qui s'est condensée sur elle-même, qui tourne pas très rapidement, je veux dire qu'elle fait 100 tours à 1000 tours par seconde. Et donc, comme un phare qui envoie de la lumière, on voit la lumière du phare qui apparaît, disparaît quand on est sur le trajet du faisceau lumineux. Et bien, quand on est sur le trajet du faisceau lumineux du pulsar, on voit cette pulsation en quelque sorte qui apparaît et disparaît. Et on a compris que ces objets étaient des étoiles en fin de vie qui ont en fait explosé, qui ont implosé plus exactement, le cœur restant étant un pulsar et le reste de la matière s'étant dispersé dans l'univers. Alors trouver des planètes autour d'un objet qui le résulte d'une catastrophe aussi extraordinaire, quelle surprise! On se dit, mais enfin voyons, si l'étoile a explosé, tout doit être emporté dans l'explosion. Ces objets n'ont pas pu rester. Ben, ils sont restés. Alors est-ce que c'est la trace d'un système solaire passé, qui est maintenant mort bien entendu? Nous ne savons pas. On s'est donc mis à rechercher des objets semblables. Et depuis 1992, on n'a trouvé que deux. Il n'y a pas d'autres. On a regardé tous les pulsars. Comment trouve-t-on cela? C'est assez facile. On a le signal radio d'un pulsar. Et ce signal radio est très légèrement perturbé par la présence éventuelle de planètes autour. Et parmi les milliers de pulsars que nous connaissons, seulement deux présentent ce phénomène extraordinaire de planètes qui sont autour. Mais évidemment, ces planètes n'ont rien à voir avec la vie. C'est des mondes tout à fait inhabitables, complètement gelés et glacés. Donc, ce n'est pas là qu'on trouvera de la vie. Et puis, en 1995, une nouvelle extraordinaire est arrivée. Ça se passait un petit peu au nord de Marseille, à l'Observatoire de Haute-Provence. Et si je cite cet endroit, c'est qu'il y a une tradition en France d'optique, de qualité, et avec d'excellents instruments. Ben, cette tradition donne un résultat. Et une équipe suisse, observant dans cet observatoire, découvre une planète autour de l'étoile 51 Pégase. On dit l'étoile numéro 51 de la constellation de Pégase. Alors, comment cette découverte a été faite? On n'a évidemment pas photographié la planète. On a simplement trouvé que l'étoile vibrait légèrement, bougeait un petit peu. Alors, on s'est dit, mais à quoi c'est dû? Eh bien, c'est dû à la présence d'une grosse planète située très proche, qui évidemment perturbe un petit peu. Ce système double, en quelque sorte, fait que l'étoile et la planète tournent toutes les deux autour de leur centre de gravité commun. Nous ne voyons pas la planète, bien entendu, mais nous voyons l'étoile légèrement bouger, perturbée qu'elle est, par un corps qui est obscur à nos yeux. Alors, il y a eu toute une polémique au début. On s'est dit, est-ce que c'est pas dû à, comment dirais-je, à une pulsation de l'étoile elle-même? Alors, on a fait des calculs, on a fait des observations, beaucoup d'équipes s'y sont mises. D'autant plus qu'il y avait une équipe américaine, une équipe canadienne qui était sur le sujet depuis très longtemps et qui espérait faire la première découverte. Et le fait que ça se passe en France et en Suisse vexait un peu nos amis d'outre-Atlantique qui, certains, pensent quelquefois être les maîtres du monde. Et donc, cette découverte est faite, elle est confirmée. Il y avait une planète autour de notre étoile. Alors au début, on s'est dit, mais c'est un phénomène tout à fait particulier. C'est un peu une exception. Pourquoi? Parce que cette planète est très massive. Pour perturber l'étoile à ce point-là, il faut être très massif et très près. Et donc, c'est le contraire du système solaire. Les petites planètes que sont Mercure, Vénus, la Terre et Mars sont toutes proches du Soleil. Parce que le Soleil, très chaud au début, a éliminé tous les éléments hydrogène et hélium. Il n'est resté que quelques débris. Alors que les grosses planètes, Jupiter, Saturne, sont loin du Soleil, là où il faisait froid, et tous les éléments puissent rassembler en une planète. Autrement dit, l'idée qu'une planète massive soit près d'une étoile est contraire à ce que nous observons dans le système solaire. On se dit, bah, c'est quelque chose de très particulier. Mais on a continué l'observation, et on a trouvé beaucoup d'autres planètes très massives autour des étoiles. Alors le sujet a été relancé, et là, c'est un déferlement de découvertes. Au mois d'août 2012, nous avions trouvé 800 planètes autour des étoiles proches. Et au 14 juillet 2013, nous en étions à 900. Donc ça veut dire qu'en 2014, on en est à 1000. Et je ne parle que des étoiles proches, c'est-à-dire celles qui sont à quelques 5, 6, 7, 10, 20, 30, 40, 50 années-lumière. Je vous rappelle que l'univers s'étend sur des milliards d'années-lumière. Autrement dit, il semble bien que pratiquement toutes les étoiles soit entouré de planètes. Alors, la question qu'on se posait au début, est-ce qu'une planète autour d'une étoile, c'est un loupé de la recette de cuisine? Certains disent comme un grumeau. Faites une sauce et puis, il y a des grumeaux, j'ai manqué ma recette. Hein. Ou bien, est-ce qu'au contraire, c'est un sous-produit naturel de la formation des étoiles? Eh bien, toutes ces observations que nous venons de faire semblent indiquer qu'une planète est un sous-produit naturel de la formation d'une étoile. Évidemment, on ne voyait pas les planètes jusqu'à présent, puisque les planètes n'émettent pas de lumière. Elles ne font que réfléchir la lumière d'une étoile. Elles sont tout à fait à côté. Et observer une planète près d'une étoile, c'est comme voir une bougie à côté d'un phare de marine. Si vous regardez pas longtemps, vous voyez le phare et pas la bougie. Et si vous regardez longtemps, vous êtes ébloui par le phare. C'est pour ça qu'on ne les voyait pas. Et donc, on voit ces planètes de manière indirecte. On ne prend pas des photos pour l'instant, on les voit de manière indirecte. Et là, ça devient vraiment passionnant, je dirais, puisque quand on trouve autant de planètes, on va se poser la question suivante. Est-ce que tout ça se ressemble? Eh bien, pas du tout. Si je devais résumer en quelques mots quelle est la caractéristique de toutes ces planètes autour de ces étoiles, c'est le mot diversité. Et c'est toujours le même mot qui revient quand on observe l'univers, c'est la diversité et la richesse qui prédominent. C'est beaucoup plus extraordinaire que tout ce que les plus brillants esprits humains ont pu imaginer auparavant. Alors là, je ne vais évidemment pas vous décrire en détail tout ce qu'on a trouvé. Simplement, laissez-moi vous rappeler comment on fait pour trouver des planètes autour des étoiles. Alors, il y a plusieurs méthodes. Les méthodes du 19e siècle et du 20e siècle consistaient à essayer de voir si sur une plaque photographique, l'étoile avait légèrement bougé. Et c'est en examinant une plaque photographique avec le grain de la plaque plus ou moins important, avec un télescope qui est soumis aux turbulences de l'atmosphère, vous comprenez qu'on ait fait un certain nombre d'erreurs dans les années 1950, 60, 70, etc., dans des annonces quelquefois un peu prématurées. Mais maintenant, comment on fait? Eh bien, on le fait par cet effet de mouvement de l'étoile. Quand une planète de grande masse est située près d'une étoile, elle va perturber l'étoile en question. Et c'est le fameux effet Doppler-Fizeau. Cet effet qu'hélas, on a vulgarisé, puisque les gendarmes s'en servent pour mettre ces engins qu'on appelle des radars à des endroits stupides au bord des routes. Et donc, cet effet Doppler-Fizeau, tout simplement, je rappelle que Doppler était le physicien autrichien qui a trouvé le phénomène, et Fizeau, le physicien français, qui a trouvé le même phénomène, eh bien, nous montre que l'étoile bouge un petit peu, et ce petit mouvement est dû à la présence de corps en son voisinage. Voilà une première méthode. Une deuxième méthode consiste à observer ce qu'on appelle un transit. Autrement dit, si jamais une planète passe devant une étoile, l'étoile, elle est brillante, la planète, elle est plus sombre. Elle va obscurcir un peu l'étoile, au pas de beaucoup, de quelques millièmes, quand ce n'est pas des millionièmes, mais avec des instruments extrêmement précis lancés dans l'espace, on peut observer des transits. Et ça, c'est une méthode extrêmement riche qui a été utilisée par un satellite européen qui s'appelle, surtout la France avait beaucoup contribué, qui s'appelle Coro, et ensuite par un satellite américain qui s'appelle Kepler, où on a visé quelques centaines de milliers d'étoiles dans une direction du ciel. Et là, on a, comment dirais-je, en lançant les filets, on a ramassé plein de poissons. Hein. Il y a un nombre de découvertes extraordinaires. Et les scientifiques ont passé plusieurs années à dépouiller tout ce qui a été observé de cette manière-là. Il y a enfin une autre méthode qu'on appelle un effet de lentille. Autrement dit, quand vous regardez très très loin une étoile, si par hasard une autre étoile passe devant sur la ligne de visée entre l'observateur et l'étoile que l'on regarde, eh bien, la lumière va être très légèrement déviée. C'est un effet qui a été découvert par Einstein, où on vous dit que la matière et l'énergie sont en gros la même chose, et que la lumière est déviée par la présence d'une masse. Bon, ça, c'est un effet classique. Mais supposez que cette étoile, qui s'interpose entre l'étoile que vous voyez et vous-même, soit entourée d'une planète, eh bien, il y a une petite déviation secondaire. Et cette petite déviation secondaire, on peut l'observer. Donc, vous voyez, il y a plusieurs méthodes, j'en ai seulement cité trois, et ces méthodes sont extrêmement riches et nous donnent... plein d'informations. Alors maintenant, attention, il y a un biais observationnel, parce que c'est évidemment plus facile de trouver un objet gros près de l'étoile qu'un petit loin. Hein. Et donc, dans les statistiques que l'on peut faire, il est sûr qu'on repère certaines choses plus facilement que d'autres. Mais malgré ce, on a cette grande diversité. Alors, regardez, premièrement, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des systèmes planétaires. C'est-à-dire, on trouve des systèmes où il y a un ensemble de planètes autour d'une étoile, comme dans le système solaire. Et dans ces systèmes planétaires, quand on a l'information, en gros, on trouve que ces planètes sont dans le même plan. Ce qui veut dire qu'avant de former des planètes, il y a un disque qui s'est formé. On trouve aussi des planètes autour de deux étoiles. Un peu, vous savez, Star Wars avait raison. Dans le ciel, il y a deux soleils. Eh bien, il y a des étoiles binaires qui sont entourées de planètes. Pas forcément la vie à cet endroit-là, puisque la température, évidemment, avec deux étoiles de température différente, doit varier énormément. Mais on trouve cette diversité. On trouve ce qu'on appelle des Jupiters chauds, c'est-à-dire de grosses planètes près de l'étoile. Et on trouve des objets qui ont à peu près la masse et la taille de la Terre. Et là, tout de suite, une question se pose. Ces objets sont-ils au bon endroit? Autrement dit, on définit ce qu'on appelle une zone d'habitabilité. C'est-à-dire, en gros, que si on est très loin, si vous mettez la Terre au niveau de Neptune, bon, il fera très froid, c'est pas très favorable à la vie. Si vous mettez la Terre au niveau de Mercure, il fera très chaud, il n'y aura plus d'eau liquide, c'est pas favorable à la vie non plus. Et donc, on définit ce qu'on appelle une zone habitable. Qu'est-ce que c'est qu'une zone habitable? C'est l'endroit, je vous dis, où il fait assez froid, assez chaud, pas trop chaud et pas trop froid. Et mais c'est difficile à définir, parce que sur une planète, il peut exister un effet de serre. Donc, un objet qui est situé peut-être un peu trop loin de l'étoile, si l'atmosphère a la bonne composition, avec un petit peu de dioxyde de carbone, avec un petit peu de vapeur d'eau, etc., ça peut augmenter la température. L'effet de serre, dans ce cas-là, est positif et va augmenter la température. D'ailleurs, entre parenthèses, sur Terre, l'effet de serre qui existe, c'est grâce à lui que la vie existe. Il ne faudrait pas qu'il se développe trop, évidemment. Mais c'est positif pour que la température soit la bonne, en quelque sorte. Et donc, ces zones habitables, évidemment, est définie pour la vie ressemblant à la nôtre. S'il s'agit d'extrémophiles, c'est évidemment une autre question qui se pose là. Alors maintenant, vous allez me dire aussi, mais attention, comment se fait-il qu'il y a des planètes qui sont grosses près de l'étoile, contrairement au système solaire, des petites loin ? Eh bien là aussi, on a compris qu'un système de planètes, ça peut bouger. Autrement dit, il y a des phénomènes de migration. Quand il y a une interaction entre le disque continu de matière qui tournait autour de l'étoile et des planètes qui commencent à se former, on peut avoir un phénomène migratoire qui apparemment n'a pas joué un rôle très important dans notre système solaire, mais qui a pu jouer un rôle important ailleurs. Il y a aussi des phénomènes de perturbation. C'est-à-dire quand si vous formez deux planètes pas trop loin l'une de l'autre, en se perturbant, l'une peut être envoyée très loin, sur une orbite très elliptique, l'autre peut être envoyée au bon endroit. Une planète géante qui est près d'une planète petite va la perturber, bien entendu. Et donc on voit très bien que les lois de la physique nous offre une variété de phénomènes extraordinaires. On peut avoir un petit peu toutes les situations. Alors on peut dire, oui, mais alors ça veut dire que la vie sur Terre, c'est une chance extraordinaire. Et non, parce qu'il y a tellement d'objets, il y a tellement d'étoiles, il y a tellement de planètes que nous risquons de trouver une variété de phénomènes extraordinaires. Et là aussi, je pense que les 22e, 23e siècles, et si l'homme ne s'est pas détruit avant, mais ça on en reparlera peut-être un peu plus tard, nous ferons des découvertes extraordinaires dans les millénaires qui vont suivre. Et ils diront quelle chance ils avaient en fin du 20e siècle, en début du 21e, au moment où ils étaient en train de tout découvrir, au moment où un monde nouveau se présentait à eux. Qu'est-ce qui devait être heureux, ces gens-là ? Et qu'est-ce que les journaux devaient présenter des bonnes nouvelles tous les soirs ? Vous voyez qu'ils n'ont pas forcément toute l'information. Et donc, ces planètes d'axe solaire, elles sont très nombreuses, c'est un champ complètement nouveau. Mais en même temps, si on voulait faire une plaisanterie, la recherche de vie extraterrestre, c'est le seul sujet scientifique qui n'a pas d'objet d'étude, puisqu'on n'a pas encore trouvé. Alors maintenant, essayons de rêver un tout petit peu. S'il y a de la vie ailleurs, est-ce que cette vie se contentera d'être monocellulaire, de microbes, de virus, de choses finalement qui sont fort importantes pour que nous comprenions comment notre propre vie est apparue ? Ou bien est-ce qu'on pourrait trouver des formes de vie avancées ? Je ne sais pas, moi, des animaux, des colonies de fourmis, des dinosaures, des hommes, des civilisations. Maintenant, allons un peu plus loin et posons-nous la question de savoir s'il existe dans l'univers une vie que je vais appeler intelligente. Ce n'est pas le bon mot parce que je ne suis pas persuadé que l'homme soit très intelligent. Mais disons, utilisons ce mot pour l'instant pour distinguer, disons, les hommes des animaux, par exemple. D'ailleurs, entre parenthèses, on pourrait se demander qu'est-ce qui distingue l'homme des animaux ? Certains pensent que c'est la voix. La voix a permis la communication et a permis le vocabulaire, a permis des échanges plus riches que peuvent avoir différents animaux. Autrement dit, la forme du larynx de l'homme aurait joué un rôle fondamental dans la communication et donc dans le fait que la société humaine a pu avancer. Dans une bonne ou mauvaise direction, c'est une autre question. Il y a aussi le fait de prendre un outil, mais l'homme n'est pas le seul. Les singes savent prendre des outils, différents animaux, un perroquet est capable de casser une noix, etc., avec un outil, donc l'homme n'est pas seul. Mais autrement dit, la question posée, c'est est-ce qu'il existerait, s'il existe de la vie, des espèces de sociétés qui seraient développées, qui auraient communiqué, est-ce qu'elles existent ? Alors là, vous voyez que le champ des possibles devient infini, parce que ces gens-là, avons-nous intérêt à les rencontrer ? Ne risquons-nous pas de les détruire si on les rencontre, comme on l'a fait de beaucoup de populations terrestres au moment des explorations des différents continents ? Ne risquons pas, nous, d'être détruits, si par hasard ils sont plus avancés que nous ? Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce qu'on trouvera un langage commun ou pas ? Autrement dit, les questions sont très nombreuses. Et vous comprenez que dans cette question, je vous propose, dans ces quelques minutes, d'aborder un domaine très spéculatif. Non, surtout parler de spéculation et pas de résultats scientifiques. Mais dites-vous qu'après tout, si on avait demandé aux Grecs de la Grèce ancienne ou aux Romains de discuter des conditions physiques qui règnent sur les planètes. Ils n'avaient aucune donnée pour en parler et pourtant ils ont commencé à émettre quelques idées. Alors, faisons-nous le plaisir d'émettre ces idées en laissant la tâche à nos successeurs. Alors d'abord, une vie intelligente comme nous, si elle existe, certains se disent, mais pourquoi on ne les a pas déjà rencontrés ? Pourquoi ? Parce que peut-être qu'on pourrait leur téléphoner ou aller leur rendre visite. Alors, les distances en jeu en astronomie sont considérables, ce qui fait qu'aller leur rendre visite, ça prend du temps, et quand on part, on n'est pas sûr de revenir, ce qui n'est pas gentil pour ceux qu'on envoie. Et puis, quant à se téléphoner, là aussi, ça prendrait beaucoup de temps. Mais certains, pensant que toute civilisation se développe avec, sans dire qu'il y a toujours une nouvelle frontière, imaginent que s'il a existé des sociétés intelligentes avant nous, ils auraient dû déjà nous rendre visite. Et s'ils ne sont jamais venus, c'est qu'ils n'existent pas. Mais alors là, ça veut dire que nous serions seuls. Il n'y en a pas d'autres. Ou nous serions les premiers. C'est avoir quand même un nombril aussi d'une taille démesurée, de penser qu'on est unique, les premiers, les seuls, etc. Une autre idée, c'est d'imaginer que partout des civilisations sont nées, mais elles sont autodétruites. Vous savez qu'il y a un théorème mathématique qui dit que tout ce qui est possible, on le fait, et dont un corollaire, et chaque fois qu'une bêtise est possible, on la fait. Alors l'homme a inventé des armes pour s'autodétruire, donc il devrait, d'après certains, s'autodétruire. Donc toutes les civilisations se sont autodétruites. Je ne sais pas. J'ai même un collègue qui, lui, a un argument imparable sur l'existence ou non de civilisations extraterrestres. Il dit « J'ai la preuve que la vie intelligente existe dans l'univers. » Et la preuve, c'est qu'ils ne sont jamais venus nous rendre visite parce qu'on n'est pas intéressant. C'est bien la preuve qu'ils sont intelligents. Bon, alors effectivement, on peut imaginer cela. Autrement dit, vous voyez, nous manquons totalement de données. Alors essayons un petit peu de creuser un peu cette question, de se téléphoner ou y aller. Alors se téléphoner, on a déjà fait. On a déjà envoyé des messages, on a déjà écouté. Alors qu'est-ce que ça a donné ? Eh bien, il y a quelque temps, moi j'étais un jeune étudiant à l'époque, on a refait la surface du télescope d'Arecibo. On est dans les années 1970, ce télescope occupe la cavité naturelle d'un volcan dans l'île de Porto Rico. Et c'est un immense grillage. Alors évidemment, on ne fait pas tourner le volcan, mais la Terre tourne sur elle-même. Et donc cet objet pointe différentes directions du ciel au fur et à mesure du mouvement de la Terre. Et on a donc tendu ce grillage, qui est un récepteur radio. C'est le plus grand radiotélescope du monde. Il fait 400 mètres de diamètre. Et il observe des signaux dans les domaines de la radioastronomie. En refaisant ce grillage, eh bien, on a fait une petite fête. Alors cette petite fête a consisté à boire un champagne, qui entre parenthèses est de mauvaise qualité. Donc là aussi, on pourrait éduquer les Américains dans ce domaine. Et d'autre part, eh bien, envoyer un message dans l'espace. Alors on s'est dit, on va envoyer un message. Mais où ? Quel est le numéro de téléphone du correspondant ? Alors on s'est dit, on va l'envoyer vers l'amas d'Hercule. Pourquoi l'amas d'Hercule ? Eh bien, parce que l'amas d'Hercule est un amas de 1 million d'étoiles, et qui est relativement proche de nous. Proche de nous, ça veut dire qu'il est quand même à 25 000 années-lumière. Enfin, ce qui, à l'échelle astronomique, est quand même relativement proche. Et donc, on a envoyé un message dans cet amas en disant, s'il y a 1 million d'étoiles, ça serait bien le diable qu'il n'y en ait pas une, qu'il y ait une planète. Bon, alors imaginons qu'il y ait des planètes autour des étoiles de cet amas d'Hercule. Donc, le message est parti. Mais qu'est-ce qu'on va envoyer comme message ? On l'envoie en anglais, en français, en grec ancien, en latin, on l'envoie. Alors, ce qu'on a envoyé, on a envoyé le message suivant. On a envoyé des 0 et des 1. Autrement dit, le message envoyé, c'est 1-0-0-1-0-0-1-0-0. Alors d'abord, il faut recevoir le message. Ce qui veut dire que les gens qui sont là-bas, il faut qu'ils pointent leur antenne dans la bonne direction. Ils ignorent totalement l'existence de la Terre, du Soleil, etc. Donc il faut qu'ils aient l'intelligence de pointer l'antenne dans la bonne direction. Je vous rappelle que le message, il dure 3 minutes. Donc 3 minutes, il faut se dépêcher. Donc 3 minutes dans la bonne direction. D'accord. Et puis attendez, c'est la bonne longueur d'onde. Si vous écoutez France Culture, c'est pas France Musique. Et France Musique, c'est pas France Culture. Donc dans la bonne direction, pendant 3 minutes, et sur la bonne longueur d'onde. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils reçoivent ? 0, 0, 1, 0, 0. Et comme ils sont très intelligents, ils remarquent que le nombre total de 0 et de 1 est le produit de deux nombres premiers, et que le premier nombre premier est le nombre de colonnes, que le deuxième nombre premier est le nombre de lignes. Ils remplacent les 0 par des blancs et les 1 par des noirs. Et ça fait une jolie figure. On leur apprend de compter de 1 à 10 en binaire, on leur montre la double hélice, on leur explique qu'on habite la troisième planète en partant du Soleil, on leur montre où est le Soleil par rapport au pulsar proche, en gros on leur dit bonjour. Et donc dans 25 000 ans, ils vont recevoir le message. Alors il y a des gens qui ont dit, mais vous êtes fous de faire ça. Ils vont savoir où on est. Oui, bon tant pis, le message est parti. Donc le message est parti. Alors d'ailleurs, entre parenthèses, on a soumis le message à nos collègues astronomes, aucun n'a compris. Mais enfin, supposons qu'un extraterrestre moyen soit plus intelligent qu'un astronome terrestre. Donc ils ont compris, et comme ils sont très polis, ils nous répondent. Et donc, ils nous répondent, ils disent « Bonjour, comment allez-vous » Et donc, la réponse, évidemment, va mettre 25 millions de plus. Donc, en 50 000 ans, on se sera dit « Bonjour, comment allez-vous » Ce qui fait que la profondeur de la discussion ne sera pas du niveau des émissions merveilleuses que vous avez sur France Culture chaque jour. Autrement dit, vous voyez la difficulté de la communication. Et le problème que ça a posé aux certains pensant qu'on n'aurait jamais dû faire ça. Mais on a fait beaucoup mieux. Et je trouve que j'ai eu le bonheur d'être membre de l'équipe d'imagerie de la sonde Voyager, qui, je vous l'ai déjà dit, a exploré successivement Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et cette sonde est en train de quitter le système solaire. En 2013, elle est en train de franchir la frontière entre le monde interplanétaire et le monde interstellaire. Et on s'est dit, après tout, si jamais un extraterrestre découvrait cette sonde un jour, qui va dans le vide de l'espace intersidéral, rester dans le même état pendant des milliards d'années, s'il trouvait ça, mettons-lui un petit message. De la même manière qu'on aimerait bien que les Sumériens, les Babyloniens, les Égyptiens nous aient laissé au pied de leurs ruines, dans leurs caves, quelques messages pour faciliter la tâche des archéologues. Alors, pareil, dans ce message, qu'est-ce qu'on a mis? Alors, on a mis « Bonjour » en 150 langages terrestres, y compris le corse, le breton, le basque, l'alsacien et tout le langage terrestre. On dit « Bonjour ». Il y a un message bienvenu du président Carter qui était au pouvoir à l'époque aux États-Unis. On y envoie 150 photos de la Terre. Entre parenthèses, qu'auriez-vous choisi? Alors, on a choisi 150 photos, on a publié un petit livre qui s'appelle « Murmure de la Terre » en montrant ces photos. Alors, dans ces photos, vous avez une radiographie du corps humain qui vous donne une idée de la gravité sur Terre et de ce qu'est un corps humain. On a choisi une photographie d'un embouteillage dans une grande ville à 6h du soir, montrant combien on est fou. On a choisi aussi un embouteillage près d'un point d'eau en Afrique à la même heure, donc de nature différente. Et alors, on a eu un problème. On a voulu représenter un homme et une femme. Alors là, vous les mettez comment? Vous les mettez en costume cravate, en jupette grecque, en toge romaine ou en costume traditionnel japonais? On s'est dit, on va les mettre tout nus, ce qui est plus informatif. Et là, immédiatement, déchaînement des ligues de vertus américaines qui ont protesté sur le fait d'envoyer de la pornographie dans l'espace aux frais du contribuable. Donc vous voyez comme quoi, on s'amuse beaucoup d'astronomie. Alors donc, pour répondre à cette attaque, nous avons dû examiner avec beaucoup de soin 10 000 photographies de couples tout nus pour prendre la photo la plus neutre, etc. Il faut vraiment être tordu pour imaginer je ne sais pas quoi. Vous voyez comme quoi c'est un métier avec beaucoup de variété. Et on a choisi une photographie où l'on voit un homme, une femme, vus de face. Ils ne sont pas habillés donc. Ils se tiennent la main. Bon, l'homme, je ne peux pas dire, mais enfin la femme est superbe. Et ils sourient tous les deux. Ils sont vraiment sympathiques. Et l'homme agite la main pour dire bonjour. La femme lui tient la main à côté, etc. Et là, les ligues féminines ont protesté en disant « Ah, c'est encore le bonhomme qui est en avant. » Trop tard, c'est parti. Vous voyez comme quoi, quand on envoie un message, c'est délicat. Et donc, ce message est parti. Et si un jour, un archéologue du futur découvre cet engin, se dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce machin primitif ?» dû à une civilisation probablement animale, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il pourra, regarder les photos. Il pourrait écouter de la musique. On a mis du Bach, du Beethoven, du Mozart, du jazz, la musique africaine. Il pourra écouter les langages terrestres. Et il se dira, mais qu'est-ce que c'est que cette civilisation très, très peu avancée? Cela dit, ce n'est pas pour demain, puisque la sonde atteindra les étoiles de la constellation de Fucus dans environ 5 milliards d'années. Mais quand la sonde arrivera, il y a longtemps que les étoiles seront parties. Donc voilà, vous voyez donc cette idée. Vous voyez bien qu'on retrouve finalement le mythe, le mythe du naufragé, le mythe de Robinson Crusoe. Et c'est une bouteille lancée à la mer. Et quand on lance une bouteille à la mer, c'est en quelque sorte un message qu'on s'envoie à soi-même, beaucoup plus qu'un message envoyé aux autres. Donc la civilisation humaine s'envoie un message à l'extérieur. Pourtant, nous ne sommes pas naufragés sur Terre, mais nous posons la question de savoir s'il existe un monde ailleurs que sur notre île. Alors maintenant, on peut se mettre à l'écoute. On s'est dit, mais après tout, s'il y a plein de civilisations avancées, peut-être qu'ils communiquent entre eux. Et donc, vous savez que l'écoute, actuellement, les pays s'écoutent beaucoup. Ils doivent être très fatigués, d'ailleurs, d'entendre toutes ces conversations. Eh bien, en se mettant à l'écoute, il y a un projet qui s'appelle SETI, donc la recherche qui a existé, qui a d'abord été financé par la NASA, qui maintenant est financé surtout sur fonds privés. Un certain nombre de gens passionnés passent leur temps à écouter l'univers dans toutes les directions, dans beaucoup de longueurs d'onde, histoire de voir s'il n'y aurait pas un message qu'on pourrait traduire comme un message entre guillemets intelligent, un message différent, un message naturel. Alors de temps en temps, on a une émotion, on se dit qu'est-ce que c'est, puis finalement on comprend de quoi il s'agit. Alors certains sont très critiques, c'est qu'on dit « mais voyons, on n'a aucune chance de rien trouver ». D'autres sont enthousiastes à cette idée. Et c'est finalement une recherche dont la probabilité de trouver quelque chose est quasiment nulle, Mais dans le bénéfice, si on trouve quelque chose, est presque infini. Et chacun sait qu'en mathématiques, le produit de zéro par l'infini, c'est compliqué. Et donc, en gros, dans cette écoute, rien pour l'instant, on continue. Il y a même des réseaux d'ordinateurs qui se sont mis ensemble pour analyser ces signaux éventuels. On observe en même temps plusieurs canaux. Là aussi, ça montre bien que cette curiosité vis-à-vis d'une forme de vie intelligente, elle existe, et évidemment très fortement. Alors, il est évident, certains imaginent qu'on aura... Non, si le jour où on a entendu quelque chose, c'est évident que tout le monde le saura tout de suite. Hein. Mais nous en sommes encore loin. Alors maintenant, allons au-delà. Se téléphoner présente quelques difficultés. Pourrait-on y aller ? Alors déjà, première question, est-ce qu'un contact physique serait souhaitable ou pas ? Alors quand on voit l'histoire de la Terre, j'ai envie de répondre non. Vous n'avez qu'à demander aux habitants de l'île de Pâques, qui ont été anéantis par l'arrivée de l'homme blanc. Vous n'avez qu'à demander aux aborigènes d'Australie, la civilisation a pratiquement disparu. Vous n'avez qu'à demander aux Mayas et aux Incas, qui n'ont pas vraiment apprécié l'arrivée des Espagnols. Vous n'avez qu'à demander aux Indiens d'Amérique du Nord. À chaque fois qu'une civilisation rencontre une autre, si une est technologiquement plus avancée, elle détruit l'autre. Elle le détruit soit par les armes, soit par des virus, c'est comme ça que les gens de l'île de Pâques ont été aussi détruits, par les maladies qu'elles communiquent, ou soit par la culture, en quelque sorte, ou la culture du moins avancée disparaît, en quelque sorte. Autrement dit, on pourrait s'inquiéter. Est-ce qu'une rencontre ne serait pas la fin d'une civilisation et la fin des hommes. Alors maintenant, cette inquiétude, pour l'instant, on n'a pas à la voir, puisqu'on est loin de tout cela. Mais si on réfléchit, est-ce qu'un voyage serait possible ? Alors certains disent non, les distances sont beaucoup trop considérables, c'est pas possible. Mais réfléchissez un peu à la manière dont la Terre a été colonisée. Quand Christophe Colomb trouve l'Amérique, on n'y retourne pas de sitôt. Il ne se passe pas grand-chose pendant plusieurs siècles. Et puis, un petit peu plus tard, des immigrants arrivent. Mais les immigrants qui partaient d'Europe en Amérique, ils allaient dans un seul sens. Ils allaient, mais ils ne revenaient pas. Et donc, on pourrait imaginer qu'on part de la Terre, on va sur une étoile qui est à 10 années-lumière ou 20 années-lumière, ce qui n'est pas totalement impensable. Mais évidemment, c'est un voyage dans un seul sens. Il n'y a pas de voyage de retour. On peut imaginer qu'on fonde une colonie qui s'établit là, et puis qu'ensuite, rencontre ou pas, je n'en sais rien. Mais on pourrait imaginer donc qu'on puisse se répandre à l'extérieur du système solaire. Entre parenthèses, nous en reparlerons une prochaine fois, mais il faudra le faire. Parce que la vie de la Terre n'est pas infinie, la vie du Soleil n'est pas infinie. Je ne sais pas si notre civilisation continuera, mais si on voulait durer longtemps, il faudrait un jour penser à déménager. Mais ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai. Des endroits sympathiques dans l'univers, il en existe. Et je vous dirai où c'est, hein, mais on a le temps. Hein. Donc, en gros, on pourrait y aller. Donc, autrement dit, un voyage sans retour, c'est possible. C'est-à-dire qu'une génération va à 10 années-lumière, elle s'établit, elle fait une colonie, se développe, etc. Puis un petit peu plus tard, d'autres partent et puis ils vont 10 années-lumière plus loin. On peut, comme ça, imaginer que de proche en proche, on peut, non pas conquérir, mais voyager dans toute la galaxie et même dans des mondes extragalactiques. C'est pas impensable, mais vous voyez qu'on est vraiment en pleine spéculation. Hein, là, on quitte pratiquement le domaine de la science, mais c'est pas, absolument pas impensable. Alors maintenant, il y a un autre problème qui se pose. C'est celui du temps. Parce que nous connaissons le temps de notre montre, nous connaissons le temps biologique. Nous savons tous, enfin en ce qui me concerne personnellement, une heure dans les bras d'une jolie femme me paraît beaucoup plus brève qu'une heure dans les bras de mon dentiste, qui est pourtant un garçon sympathique. Et donc, savons que le temps est relatif, en quelque sorte. Et nous savons aussi que, quand on voyage, le temps ne s'écoule pas de la même manière. C'est la théorie d'Einstein, la thèse générale, qui nous le donne, et ça a été vérifié expérimentalement. Quand vous prenez un avion muni d'une horloge qui se déplace, qui fait le tour de la Terre vers l'Est, et puis un autre avion muni de la même type d'horloge qui fait le tour de la Terre vers l'Ouest, et bien quand les deux avions se retrouvent, les horloges n'indiquent pas le même temps. Autrement dit, c'est la fameuse expérience des jumeaux de Langevin. Si vous avez deux jumeaux, il y en a un qui reste sur Terre, il y en a un qui a fait un petit tour dans l'espace et qui revient. Et quand il revient, eh bien, il a 20 ans de moins que son jumeau. Autrement dit, quand vous restez stable, vous vieillissez plus. Et quand vous voyagez à grande vitesse, le temps est plus court pour vous. Alors le grand problème, c'est le temps des horloges. Mais est-ce que ce temps des horloges, c'est le temps biologique ? Nous ne savons pas. Est-ce que vos cellules vont réagir comme le mécanisme de l'horloge ? Nous ne savons pas. Nous n'avons pas fait l'expérience. On n'a jamais envoyé quelqu'un pour voir s'il vivrait. Encore que, je pense, il y a certaines personnes qu'on enverrait volontiers en étant chef de la mission. Comme ça, on ne les verrait plus pendant une quarantaine d'années. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc là aussi, le temps risque de s'écouler différemment. Hein. Chacun sait que le temps s'écoule différemment si vous êtes près d'une masse importante ou si vous êtes à une vitesse importante. Alors tout ce que je vous raconte là, vous paraît vraiment très loin de la science. Très loin. Mais dites-vous, si on avait parlé à l'époque de la Rome antique ou de la Grèce antique, de voyage à l'Australie, on aurait trouvé ça complètement fou. On aurait trouvé ça parfaitement impensable. Déjà, explorer la Méditerranée, c'est déjà pas mal. Et pourtant, 2000 ans plus tard, ceci a été fait. Autrement dit, dans l'histoire de l'univers qui s'écoule sur des milliards d'années, L'homme est là depuis relativement peu de temps, depuis un petit peu moins. Nos ancêtres, c'était environ il y a 200 000 ans qu'ils ont démarré. Et puis des Homo sapiens erectus, etc., il y a quelques millions d'années. Mais ça veut dire, en très peu de temps, on a fait des progrès extraordinaires. Qui sait ce qu'on fera dans les 2000 ans qui viennent? Autrement dit, nous voyons bien que ce type de voyage appartient au futur. Je vous propose d'ailleurs d'en parler de ce futur. Et d'ailleurs, puisque nous parlions du temps, je rêverais qu'un jour on fonde non pas des banques dans lesquelles on met de l'argent, ça c'est pas très intéressant, mais des banques dans lesquelles on met du temps. Et nous irions de temps en temps déposer un petit peu de temps quand la période qui s'annonce est un peu tristounette. Et puis nous irions récupérer de temps en temps un petit peu pour profiter pleinement d'une période plus agréable. Et vous voyez bien que dans ces propos, je suis en train de vous montrer que l'histoire de l'homme est en train de changer complètement, que la science est fondamentale là-dessus et que notre futur dépend de l'effort qu'on fera en science. C'est pour ça que je rêverais qu'un gouvernement, plutôt que de gérer un budget, ce qui est intéressant, ait une vision utopique, disons, d'avenir, en mettant comme priorité absolue la science, la culture et l'éducation. C'est ça qui est notre futur, le futur de nos enfants et le futur de notre civilisation.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
7, 6.
Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know. Now it's time to leave the capsule if you're dead. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door.
C'était Dernières nouvelles de l'univers par André Brahic. À la technique, Bernard Laniel. À la réalisation, Angélique Thibault.